est la librairie Mola qui accueille l'ACF en Aquitaine pour un nouveau cycle du séminaire des échanges. Donc c'est un cycle qui est fait de trois dates, hein, deux en 2026, une en 2027. Et donc pour ce cycle de trois conférences, nous avons la joie d'accueillir Yves Van Der Wecken, dont nous connaissons le sérieux et la clarté, notamment dans ses interventions orales et écrites. Donc Yves Van Der Wecken est psychanalyste à Bruxelles, membre de l'Association mondiale de psychanalyse, de l'École de la cause freudienne et de la New Lacanian School. Il est enseignant à la section clinique de Bruxelles. Il est auteur de nombreux travaux et textes que l'on peut trouver notamment, que vous pouvez trouver à la librairie, des textes variés sur différents sujets, parus dans La cause du désir, Mental, Quarto, et aussi un certain nombre de textes dans les ouvrages de l'Institut psychanalytique de l'enfant du champ freudien. Il a notamment co-dirigé l'ouvrage qui était issu de la journée de l'Institut de l'enfant, qui s'intitulait, le livre porte le même titre, « Enfant terrible et parents exaspérés ». Et il est aussi le prochain directeur du Congrès européen de psychanalyse, People 13. Il le fut également il y a quelques années. Il y a eu un précédent congrès de People à Bruxelles, dont le titre était « L'inconscient et le cerveau, rien en commun ». C'est toujours d'actualité aujourd'hui, comme on va le voir. Et Yves est aussi directeur thérapeutique au Courtil. Donc le Courtil, c'est une institution de soins qui accueille des enfants qui présentent des troubles psychiques en Belgique. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez voir le travail des praticiens de cette institution, tous orientés par la psychanalyse, dans un documentaire de Mariana Otero qui s'appelle « À ciel ouvert ». Voilà, donc je vais laisser la parole à Yves, qui nous parle aujourd'hui et donc pour les deux prochaines conférences sous le titre « L'enfant ».
Bon, bonjour, ben, c'est à mon tour de vous remercier, chère Pénélope, de votre invitation à ce séminaire des échanges de l'ACF en Aquitaine, dans ce cadre ici de la librairie Mola. La librairie Mola qui a une tradition d'invités et d'orateurs dans laquelle je peine un peu à m'inscrire avec une quelconque légitimité, mais me disait qu'au moins ça donne l'occasion d'essayer de faire entendre quelque chose de la voix de la psychanalyse. Et j'en remercie également de cette invitation la déléguée régionale de l'ACF en Aquitaine, donc Marita Barin. Ceci dit, ça pose le défi ou du moins convoque à essayer de tenir un équilibre précaire, je dirais, de ne pas seulement s'adresser qu'à des praticiens de la psychanalyse. Patricien, c'est autre chose. Bon, donc nous avons trois séances et nous nous sommes mis d'accord de les tenir sur le thème de l'enfant. C'est un thème qui m'apparaît après coup un peu vertigineux, faut bien dire par sa généralité et son étendue surtout. On va essayer de tenir le fil de ce que la psychanalyse peut en dire, ou en tout cas comme le Sereda dont Pénélope a parlé, s'est donné comme mission de la place de l'enfant dans le discours analytique. Et je disais qu'on sera conduit de prendre ce thème forcément à la fois de façon fragmentaire et par un angle particulier à chacune de ces trois rencontres. Ceci dit, le choix du thème de l'enfant s'inscrit dans un contexte dont j'imagine beaucoup de vous connaissent l'actualité, c'est-à-dire une nouvelle poussée d'attaque contre la psychanalyse, une attaque très agressive, très violente, très déterminée, dans le champ de la santé mentale, visant même, je le dis rapidement parce que nous sommes suffisamment informés de la chose, visant même à interdire toute pratique qui ne fût que s'orienterait de la psychanalyse et de ses concepts. Alors, dans ce cadre, c'est surtout le champ des pratiques de la santé mentale de l'enfant qui est visé. Et on doit se demander pourquoi, et qui constitue en quelque sorte une porte d'entrée idéale, une sorte de cheval de Troie pour s'attaquer, ou en tout cas pour rejeter l'orientation de la psychanalyse et l'idée même de psychisme au niveau, au profit plutôt, pardon, de, du neurodéveloppement, et qui vise à supprimer bien au-delà toute approche, à remplacer toute approche dite psychodynamique, remplaçant ces pratiques du champ de la santé mentale pour au profit plutôt d'une, ce qu'on appelle maintenant une neuroéducation, ou encore une bien nommée psychoéducation. Alors la question, c'est de savoir qu'est-ce qui est en jeu, qu'est-ce qu'il faudrait à ce point éliminer de la psychanalyse, voire jusqu'à interdire. Ça donne l'idée qu'il y a un enjeu fondamental. Toute la question, c'est de savoir lequel. Alors, nous disons la parole, que c'est le statut de la parole qui est attaqué, que ce sont les pratiques de la parole qui sont contestées. Plus précisément, que c'est le statut du sujet parlant qui est remis en cause. Ceci dit, parole, sujet, il faut être précis sur ces termes-là pour essayer de saisir de quoi il retourne et précisément ce qui est en jeu. Et essayer de cerner le statut que la parole et le sujet ont en psychanalyse. Pour déjà pointer que ça ne se confond pas, et c'est probablement important pour aussi... la contemporanéité des pratiques actuelles, que ça ne se confond pas avec ce qu'on appelle le droit à la parole. L'enfant, on pourrait soutenir avec Lacan, que c'est l'objet par excellence, qu'il est par excellence, on pourrait dire, objectifié. Je ne sais pas si on dit ça d'ailleurs. Objectalisé.
Objectivé.
Objectivé.
Objectalisé.
Voilà. D'ailleurs, on l'enfante, comme on dit. Il est expulsé, d'ailleurs. C'est un corps vivant dans un corps propre dont Lacan ira jusqu'à dire qu'il a un statut de parasite et dont, d'ailleurs, au-delà des idéalisations et des impératifs du soi-disant statut inné d'amour maternel, nous avons les témoignages des parturiantes du statut de surgissement dans le réel qu'il constitue d'abord au moment de ce qu'on appelle la dite délivrance. Mais encore, de l'enfant, on dit qu'on l'investit, ou pas. Qu'il est attendu, ou que sa grossesse est déniée. Ce sont tous des guises, je dirais, du statut d'objet de l'enfant. Il peut être choyé, mais... Je le dis de façon un peu provocante, mais c'est un fait. Il arrive aussi qu'on le congèle. On le soigne, on l'ausculte, on le diagnostique, on l'élève, on l'évalue, on l'éduque. Il y a d'ailleurs des politiques de l'enfance et de l'éducation. Et on sait l'importance pour tous les régimes qu'il soit totalitaire ou pas, ou simplement pour tout courant politique qui veut faire passer son idéologie, quelle que soit d'ailleurs la valence que vous lui donnez, d'avoir la main sur ce portefeuille ministériel. L'importance que ça a. Bref, l'enfant est donc au centre de tous les discours, on pourrait dire. Mais surtout, d'un point de vue, je dis d'un point de vue plus psychanalytique, mais... Ça va bien au-delà, ça se comprend. Dans le meilleur des cas, comme étant son enfant, on l'anticipe. C'est-à-dire qu'on le fantasme. Il est, c'est un terme que reprend Lacan à Daniel Lagache, un pôle d'attributs. Ça veut dire que, enfin, on peut le traduire par le fait qu'il surgit dans un monde... au moment de sa naissance, voire même avant sa naissance, dans un monde d'histoire parentale, de signification générationnelle, d'attente, d'espoir, de projection, comme on dit encore dans le langage courant, d'envie, de crainte, d'angoisse ou de désir. Bref, il surgit, il advient dans toute une série de coordonnées qui le précèdent et dans lesquelles il entre, on pourrait dire. Alors, vous savez que Lacan précise même la chose, il en donne l'essence, si vous voulez, en disant qu'avant même sa naissance, l'enfant est parlé. Il est parlé avant même qu'il ne parle. Il est parlé par une langue, un langage qui lui préexiste, qui le baigne. Il surgit donc dans ce que Lacan appelle un bain de langage. Alors on peut entendre, je me disais, un langage au sens de la langue dans laquelle il a... dans laquelle il advient, la langue au sens de la langue qu'on parle, le français, l'italien, l'espagnol. Mais donc aussi, si vous avez suivi la chose, il surgit aussi dans un langage qu'on pourrait dire familial, qui constitue cette galaxie, ou ce labyrinthe historique que Lacan écrit avec un Y, d'ailleurs, et dans lequel il va, en quelque sorte, l'enfant, il doit et va creuser sa place, on pourrait dire. Et donc, ce que Lacan peut épingler du terme de « infans » est d'abord, avant tout, un « il » dans la langue, un « tu ». Avant de pouvoir advenir au milieu de cette trame en tant que je, on pourrait dire. Et d'ailleurs, nous voyons cela à l'œuvre à ciel ouvert, et on peut se demander d'ailleurs comment certains ne le voient pas, dans certains cas de psychose infantile où l'enfant est littéralement parlé, traversé par ce qu'on appelle dans notre langue les signifiants de l'autre, où la bascule vers le je ne s'opère pas et qui... on ne peut même pas dire pour parler de lui, mais pour se désigner, ne parle de lui qu'à travers la troisième ou la deuxième personne du singulier. Ce sont des cas extrêmes, mais on peut le voir à l'état pur. L'enfant surgit donc des ou sous des signifiants, qui sont certes déterminants, mais... qui, dans le meilleur des cas, peine ou rate, en tout cas, à le désigner complètement. Lacan a d'ailleurs cette petite remarque, déjà, dans les années 50, en disant « on l'espère, fille ou garçon, qu'il surgisse hermaphrodite pour voir ». Je me disais, c'est une des appréhensions au plus simple que nous pouvons avoir de ce que Lacan, je le simplifie à l'extrême, je demande à mes collègues avertis de m'excuser, c'est une des appréhensions au plus simple que nous pouvons avoir de ce que Lacan note comme le sujet barré, en tant qu'il est toujours entre deux signifiants par nature. Un signifiant ne pouvant renvoyer qu'un autre signifiant dans une chaîne infinie qui dit tout autant qu'il rate à dire tout de l'être, de son être. L'enfant advient donc entre les signifiants de l'autre, de ceux qui le parlent. Et d'ailleurs, quand ce n'est pas le cas, alors, comme je l'ai déjà évoqué, les signifiants qui le parlent le désignent totalement, on se situe alors dans autre chose et dans une autre position subjective où l'enfant reste captif, on pourrait dire, d'être cet objet de l'autre qu'il est. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais à son origine, disons. L'enfant comme sujet, Je me risquerais de dire que c'est la psychanalyse qui invente ça. On peut même dire que c'est la psychanalyse qui le produit. Comme je l'ai déjà évoqué, l'enfant sujet ne s'équivaut pas au sujet de droit qui a le droit à la parole. Même si cela va de pair. Il n'y a pas de psychanalyse sans droit. Il n'y a pas de psychanalyse dans les pays totalitaires. Mais l'enfant comme sujet de l'inconscient, c'est avant tout reconnaître une position subjective à l'enfant. Et c'est ça que je dirais la psychanalyse a, dès le départ, introduit. D'où l'attention extrême, précise, que porte la psychanalyse à la parole de l'enfant. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent être réduits, l'enfant, à ce qu'il dit. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, la psychanalyse extrait qu'on est avant tout parlé et qu'on ne sait pas ce que l'on dit, enfant ou pas d'ailleurs, ou que l'on dit toujours plus ou autre chose que ce que l'on veut dire. Rêve, lapsus et acte manqué en témoignent. Et que le symptôme est structuré comme un langage. Enfin, plutôt que Lacan insiste que c'est une langue, et une langue à déchiffrer, puisque le symptôme, c'est au fond, la théorie freudienne de base, le symptôme, c'est pour qu'arrive à se dire et à se satisfaire quelque chose, malgré la répression, malgré le n'en rien vouloir savoir. Et donc, il se fraye un chemin chiffré pour trouver à se dire et à se satisfaire, tout en participant à la méconnaissance que constitue le refoulement. Reste à voir comment, donc. Mais la psychanalyse pose que le symptôme répond donc d'une articulation. Et pas d'une causalité. C'est la grande erreur, ou c'est plutôt quand la psychanalyse est ravalée au rang d'une psychologisation qui conduit à penser que les symptômes répondent d'une relation de cause à effet. Au contraire, Lacan dira, dans le champ de la psychanalyse, le symptôme s'inscrit dans une rupture de causalité. On peut prendre ça de façon très simple, c'est... On entend des... Je voulais dire ça, je dis autre chose. Ou encore, combien n'entend-on pas ça souvent, j'ai tout pour être heureux, mais... Donc, il y a un gap, dit Lacan, entre la cause et son effet concernant le symptôme en psychanalyse. Eh bien, la psychanalyse reconnaît cela chez l'enfant aussi. Toute la question, c'est de savoir qu'est-ce que cela veut dire. Quand je dis que l'enfant, comme sujet de l'inconscient, c'est la psychanalyse qui produit cela, sans doute faut-il poser, pour commencer, qu'on pourrait dire qu'il n'y a probablement pas eu de clinique de l'enfant avant la psychanalyse. Il y avait des observations, parfois très fines, de certains troubles de l'enfant, mais qui était toujours situé comme relevant du champ du déficit du développement, de la tare, ou encore du défaut au champ de l'éducatif ou de la socialisation. Pensons par exemple à l'observation de Victor de Laveyron, le fameux enfant sauvage, comme on disait, c'est un terme qui a toute son importance par la connotation qu'il emporte, qui avait été découvert dans le Tarn, observé par l'aliéniste Pinel, qui le considéra avec un grand intérêt, mais comme arriéré, un malade mental, ou comme un idiot, comme il se disait à l'époque. Bon, vous connaissez le film que François Truffaut fera de son recueillement par le docteur Itard, qui publiera un rapport en 1806 sur ses observations et son travail avec cet enfant. Mais c'est à Freud que l'on doit d'avoir donné au champ de l'enfance, on pourrait dire, une psyché propre à l'égal de celle des patients qu'il recevait, adultes. Et disons même rétroactivement, par le fait que les patients qu'il recevait dans le moment même où il inventait la psychanalyse donnaient tous une place déterminante dans leur cure au moment de leur enfance, à certains moments de leur enfance. Et au fond, j'ai envie de dire, immédiatement ou de façon absolument congruente à sa découverte de la psychanalyse, Freud a été amené, par ce qu'il appelait au départ la talking cure, donc la cure par la parole, à s'intéresser au champ de l'enfance, ou en tout cas au processus psychique qui en relève, allant même, donc, comme vous le savez, à consacrer l'une de ses cinq psychanalyses, puisqu'il a publié cinq psychanalyses, à un enfant, donc. Ce qui était un enfant, non seulement un enfant, et en plus de ça, un enfant de 4 ans, le fameux petit Hans. Ce qui était tout à fait inédit et ouvrant par là le champ à ce qu'on pourrait appeler la psychanalyse d'enfant. Pourtant, il me semble qu'on peut soutenir aussi que tant Freud que Lacan n'ont pas, déterminé ou promu une spécificité de la psychanalyse avec les enfants. L'enfant ou l'infantile a d'emblée été abordé comme partie prenante du champ de la psychanalyse dans sa globalité. Pas de psychanalyse sans la dimension de l'infantile et du champ de l'enfance, mais donc pas de psychanalyse de l'enfant comme tel, quand je dis pas de psychanalyse de l'enfant comme tel, en tant qu'elle ne répondrait pas du champ de la psychanalyse en tant que tel. Freud aborde le petit Hans et prend ses angoisses et ses productions psychiques comme il les aborde dans ses autres cas qu'il publie, des cas d'adultes qu'il épingle, certes dans leur singularité, mais sous les catégories de névrose obsessionnelle, de névrose hystérique, de psychose paranoïaque, etc. Non seulement il aborde les angoisses du petit Hans et ses productions psychiques au même titre que ses patients adultes, mais il va jusqu'à formaliser la doctrine de la psychanalyse en tant que telle en se référant sans cesse à cette dimension de l'infantile. Allant par exemple, vous le savez probablement aussi, jusqu'à prendre appui sur un jeu de l'enfant observé chez son petit-fils, le Forda, pour soutenir son hypothèse d'un au-delà du principe du plaisir qui le conduit à refonder la conception de la psychanalyse qu'il avait, à refonder la conception de la psychanalyse comme telle qu'il avait jusque-là. C'est-à-dire que, à partir de l'observation de ce jeu, pas seulement, mais aussi en partie, il remodifie sa théorie fondamentale de la psychanalyse, c'est-à-dire la place éminente qu'il lui donne. Lacan aussi, si vous êtes un peu lecteur de ses séminaires et de ses écrits, n'aura, lui, de cesse de se référer aussi, mais pas seulement, au champ de l'enfant tout au long de son enseignement, pour fonder son corpus et ses concepts, et les réinterroger d'ailleurs sans cesse. Vous trouverez, c'est vraiment frappant, c'est même pas nécessairement isolé comme tel, mais vous trouverez des références tout au long de ses séminaires, à la clinique et au champ de l'enfance. Et il entre d'ailleurs, vous savez, Lacan était psychiatre, et il entre d'ailleurs dans le champ propre de la psychanalyse par une communication, comme il disait, portant sur le stade du miroir, qui n'est pas en soi un stade d'ailleurs, mais qui est une forme syncrétique entre l'observation d'un fait clinique par un psychologue chez l'enfant, le professeur Henri Wallon, et la dialectique du maître et de l'esclave chez Hegel, mise en valeur par Alexandre Kojève. Autrement dit, je pense que c'est Jacques-Alain Miller qui dit ça, c'est un bricolage génial, le stade du miroir de Lacan entre Wallon et Kojève. Et je me faisais d'ailleurs la réflexion que non seulement il entre dans le champ de la psychanalyse par ce biais-là, pour des raisons bien précises, qu'on va pas développer ici, mais qu'il ne cessera tout au long de son enseignement, et c'est pas toujours le cas chez Lacan, parce que Lacan a élaboré beaucoup de concepts, de graphes, de montages, d'appareillages pour essayer de rendre compte de l'expérience de la psychanalyse, pour une fois qu'il les avait, en avait pressé tout leur usage, les abandonner. Je me faisais la réflexion que Lacan ne cessera de revenir tout au long de son enseignement jusque tout à la fin sur le stade du miroir, en y apportant d'ailleurs peu d'ajustements, mais en s'y référant sans cesse pour dire la place centrale qu'il occupe pour lui dans comment je dirais, ce qu'on peut appeler en termes lacaniens le processus de la production du sujet. Bref, il y a je vous dis tout ça parce qu'un vertige m'a pris à nouveau, le deuxième donc, que restituer une clinique de l'enfant en psychanalyse convoque l'ensemble de l'enseignement de Freud et de Lacan, et que c'est l'ensemble des concepts et de la pratique de la psychanalyse qu'il faut convoquer. Non seulement d'ailleurs pour situer la clinique de l'enfant, mais aussi pour aborder ou pour lire, pour organiser ce que Lacan appelait l'enforme des symptômes de l'enfant, que ce soit celui d'hier, celui d'aujourd'hui, voire les symptômes de demain. Parce que c'est un fait que les symptômes, comme les délires, évoluent, changent, sont mouvants dans leur expression, parce qu'ils dépendent, ou en tout cas qu'ils répondent des coordonnées de l'autre de l'époque, bref, du discours dans lequel ils baignent. Mais dans le même temps, si leur enforme est mouvant, propice aux transformations, ces symptômes répondent aussi de faits de structure. Comme je disais, de ceux qui relèvent de comment un sujet se produit, ou de ceux qui répondent de la production d'un sujet, ou du sujet, de la logique dont cela répond. Comment, alors qu'il est à la fois, lors de son advenue, pur vivant et objet de soins, infants, se produit un sujet, un je, formateur de la fonction du je, comme s'exprime Lacan, justement, à propos du stade du miroir, et qu'il reprendra encore dans ce qu'il appelle les conditions de causation du sujet. L'inconscient, c'est Jacques-Alain Miller qui nous dit ça, a été abordé ou est parfois abordé, et ça a toute sa pertinence, justement comme la persistance, ou en tout cas la marque, ou voire la fixation de l'infantile dans l'homme. Alors, quand je dis l'homme, je suis encore d'une génération où on disait homme ou femme. Vous comprendrez que quand je dis dans l'homme, c'est de façon générique. D'où cette prégnance de la parole sur la période de l'enfance et de la thématique, je pourrais dire, récurrente du papa-maman dans le processus de l'expérience d'une analyse et dont on ne cesse de s'étonner. Vous savez, je ne sais pas très bien où ça se trouve, je ne sais pas très bien si je l'ai inventé, mais je ne crois pas que quelque part Lacan dit qu'au fond, je ne sais pas s'il le dit tout à fait comme ça, mais il dit au fond, quand on fait une analyse, on peut extraire trois temps de l'analyse. Au début, on parle de papa-maman, dit-il. Ensuite, tout le processus, c'est de parler de papa-maman. Et à la fin, on revient pour parler de papa-maman. Bon, ça doit bien répondre à une logique, cette insistance, même si elle est un peu, évidemment, réductrice. Mais en tout cas, ce qui est largement passé comme une vérité dans le discours courant sur la nouveauté que la psychanalyse, que la découverte de la psychanalyse et de l'inconscient a introduite, c'est le caractère déterminant des premiers mois ou des années de la vie de l'être humain sur sa vie entière. Et d'ailleurs, des journées récentes de l'école de la cause freudienne ont donné une large place à ça. Les phrases marquantes, par exemple, entendues ou qui étaient attendues et qui ne sont pas venues dans l'enfance et qui ont marqué le sujet et fondé en quelque sorte le sceau d'un destin, du destin psychique. On pourrait d'ailleurs ajouter les expériences libidinales marquantes qui fondent ce que Freud appelle les fixations de la libido, les fixations de jouissance. Mais ça se manifeste aussi tout particulièrement dans le fait que c'est avec l'enfant qu'on met justement en évidence cette primauté dont j'ai parlé de la relation du sujet au discours de l'autre. J'ai déjà évoqué que l'enfant est avant tout à la fois parlé par l'autre et que c'est du signifiant qu'il a à surgir comme sujet du signifiant. Eh bien, nous dit Jacques-Alain Miller, je pense, Daniel Roy pourra me corriger si je me trompe, que c'est dans un texte où Jacques-Alain Miller définit un programme pour le CEREDA. Qu'avec l'enfant, on peut presque assister en réel, dit-il, à la façon dont le sujet surgit. On pourrait rajouter comment et sous quelle modalité de la masse des signifiants de l'autre, dit Jacques-Alain Miller. C'est un moment absolument crucial, ce moment d'advenu du sujet, avec les déclinaisons et les modalités cliniques différenciées qui parcourent ce trajet, si l'on peut dire. Trajet, c'est un terme qu'utilise Jacques-Alain Miller. Et d'ailleurs, il dit qu'on peut approximativement, ou qu'on peut dire qu'il y a un déroulé des degrés, dit-il entre guillemets, de comment l'enfant surgit initialement comme objet A de l'autre, qui est le premier état du statut du sujet, se transforme en sujet, dans quel moment il se situe, pardon, de transformation d'objet en sujet barré du signifiant et les enjeux que cela comporte. En sachant, c'est évidemment un point essentiel, précise tout de suite Jacques-Alain Miller, que l'être humain, en tant que vivant, on pourrait même dire en tant qu'être libidinal, ne peut jamais advenir complètement comme sujet. Il y a toujours un reste qui ne passe pas au signifiant. Et c'est d'ailleurs aussi ce reste qui peut être qualifié en psychanalyse d'infantile. Vous voyez, quand on est pris par ses sons plus forts que soi, on dit c'est infantile. Un reste qui ne peut en aucune façon advenir au signifiant et que l'on trouve non pas à l'état pur, mais à l'état réel chez l'enfant. Quel statut donner alors quand on s'oriente de la psychanalyse à la parole de l'enfant ? Je pourrais dire que des généralités, cette fois-ci pour le moment, mais il faut voir avec quelle attention, quel souci du détail, quelle rigueur Freud, puis Lacan, qui, vous le savez aussi, consacre toute une année de séminaire et ne cessera jamais de revenir dessus et d'en renouveler la lecture. Donc, avec quelle attention, souci de détail, rigueur, Freud puis Lacan suivent, notent et tentent de saisir la portée ou l'articulation de toutes les petites histoires, au fond, les rêveries, les pensées, ou les petits fantasmes de cet enfant de 4 ans, ou que cet enfant de 4 ans, donc le petit Hans, raconte à son père, sous la supervision de Freud, un peu avant et surtout une fois qu'une phobie très invalidante des chevaux se déclenche chez lui, autour de l'âge de 4 ans, si je ne me trompe pas, c'est pas très important. C'est une phobie très invalidante parce que le petit Hans, il vit à Vienne au début du siècle où l'équivalent des voitures actuelles sont tractées par des chevaux et donc ça l'empêche de sortir dans la rue. Freud et Lacan donnent à toute cette petite... Comment on peut le dire ? C'est vraiment des petits bouts de conversation d'un enfant de 4 ans. Des pensées qu'il a eues, des idées qu'il a eues, des propos qu'il tient et qu'il converse avec son père. Freud et Lacan lui donnent le statut d'une parole subjective qui vaut autant que celle d'un adulte et qui sont lues comme autant de tentatives d'élaboration d'un savoir autour de sa phobie et de tentatives d'ailleurs de résoudre cette phobie jusqu'à sa disparition et sa dissolution quelques temps plus tard. D'ailleurs, c'est important de noter que dans cette démarche que font Freud et particulièrement Lacan, ils ne mettent pas l'accent du tout, alors certainement pas Lacan parce qu'il le dit tel quel, je ne sais plus où, mais absolument pas tellement l'accent sur la visée thérapeutique de l'accompagnement du petit Hans. Lacan disant d'ailleurs qu'une phobie infantile se réduit et disparaît tout seul, naturellement, normalement, après 6 mois, dit-il. Et d'ailleurs, quand ce n'est pas le cas, il faut alors se poser la question de... Enfin, il y a phobie et phobie, justement. Très important. À l'heure actuelle, où on parle un peu de phobie à tort et à travers, pour tout et n'importe quoi, et regroupant toute une série de phénomènes cliniques qui couvrent un champ clinique très disparate et très distinctif. Non, ce que Lacan dit, c'est qu'il veut savoir comment ça fonctionne, dit-il, cette phobie et sa résolution. Et aussi donc comment le petit Hans tente de la résoudre par ses petites constructions imaginaires, que Lacan n'hésite d'ailleurs pas à qualifier de délire, dit-il. Alors il dit, je dis délire, c'est pas tout à fait propre de dire que c'est des délires, parce que c'est pas des délires en tant que tels, mais c'est pas inapproprié de les appeler comme tels, dit-il. Parce que c'est des histoires qu'il raconte. Quand je disais qu'il met pas l'accent, Lacan, sur la dimension de traitement thérapeutique, mais d'essayer de cerner la logique discursive dans laquelle cet enfant de 4 ans est déjà engagé pour la résoudre, sa phobie. Lacan, d'ailleurs, en extrait aussi, c'est d'ailleurs un propre de la psychanalyse, Freud n'a cessé de faire ça aussi, il essaye d'en extraire à quoi répond la logique et la nécessité pour les enfants de se constituer des peurs à ces âges-là, et qu'on voit d'ailleurs à travers les contes, enfin, c'est d'un autre temps aussi, mais par exemple, des films d'horreur que les enfants voient maintenant. Enfin, ça répond, le fait d'avoir une peur et une fascination, mais de se constituer un objet de peur, répond à une logique justement de constitution subjective dont Lacan dit qu'on peut essayer de l'en extraire à partir de la lecture du symptôme phobique du petit Hans. Donc on voit que ça porte loin. Alors évidemment, le cas du petit Hans, c'est une mine incroyable. C'est une cette étude de cas. On peut, comme je disais, Lacan revient pendant 20 ans dessus. C'est extraordinairement complexe. On peut... comment je dirais, on articulait beaucoup de choses à partir de ce cas. Quand je dis c'est extrêmement complexe, c'est sans doute ce qui est rejeté à l'heure actuelle où on veut des choses simples, ce qui n'est pas le cas de la réalité psychique. Et on voit, si je vous invite à le faire, peut-être, en tout cas aujourd'hui, je n'aurai pas l'occasion de le faire, mais peut-être un jour. On pourra le faire ensemble ici ou ailleurs. Et si c'est pas ensemble, faites-le pour vous. Allez lire vraiment tout le, ligne à ligne, dans le détail, la dernière partie du séminaire 4 de Lacan sur la relation d'objet, où il revient en détail sur le cas du petit Hans. On voit l'abord que la psychanalyse donne aux symptômes de l'enfant et de ses constructions. Qui vont tellement à l'encontre de la fameuse psychoéducation dont j'ai mentionné la percée, celle qui veut remplacer, qui se rêve de remplacer l'orientation analytique. Allez relire. Ce cas, tout dans le développement du dialogue du petit Hans avec le père, qui est un pionnier à l'époque, y contrevient justement à cette psychoéducation. Il y a toute une série d'exemples où le père, qui est un type normal comme nous tous, ou tout aussi anormal que chacun d'entre nous, tente de rectifier sans cesse le petit Hans, de le ramener dans les propos qu'il tient à la réalité, en lui disant « mais ce que tu dis là, c'est impossible, je ne peux pas, tu ne peux pas dire que tu ne peux pas dire, tu ne peux pas dire que tu as pensé que on montait dans le train pour partir ensemble chez grand-mère et que le train est parti avant que le père y monte. Et que donc Hans s'est emporté tout seul, sans le père, expérience angoissante. Et puis que quand il arrive à destination, il retrouve quand même le père. Donc le père lui dit, quand il raconte des petites histoires de ce style-là, je ne sais pas si c'est tout à fait correct, le père lui dit, mais enfin, ce n'est pas possible, si je ne suis pas monté dans le train, comment veux-tu que je sois... il fait de la psychoéducation aussi. Et le petit Hans tient bon, il dit si, en gros. Et Lacan dit, au fond, c'est ce qui est, tout ça est possible dans le champ de l'imaginaire. Et c'est justement ce champ de l'imaginaire que l'enfant, auquel l'enfant en appelle pour essayer de résoudre et de répondre, ou de trouver en tout cas des nouvelles significations à sa question subjective, par rapport à laquelle il est laissé en plan à un moment déterminant de son existence, autour de ces 4 ans-là, au moment où se déclenche sa phobie. Hans, lui, poursuit son chemin, bien aidé par le père, poursuit son chemin, sa logique, mobilisant, comme dit Lacan, toutes les ressources de l'imaginaire et du signifiant, pour résoudre sa phobie à travers donc ses productions et dans l'échange qu'il adresse à cette époque pionnière à son père, où on voit donc la matrice au fond de ce que peut être une pratique analytique avec un enfant. Alors, je voudrais juste isoler pour aujourd'hui, plusieurs points déterminants qui sont d'ailleurs, au-delà du grand public, intéressants pour le praticien dans sa pratique, si je puis me permettre. Qu'on gagne toujours à se rappeler, qu'il faut se rappeler sans cesse quand on a une pratique auprès des enfants qui s'orientent de la psychanalyse et qui abordent le symptôme comme... dans sa phase de construction psychique. Lacan a, dès son entrée dans son enseignement de la psychanalyse, mis en garde et, justement, extrait la psychanalyse de toute pente psychologisante. Dès le séminaire 3, son séminaire sur les psychoses, il précise, je voudrais le citer, même si le contexte n'est pas tellement propice, mais il dit là que le progrès, il rappelle que le progrès, enfin, il pose, disons plutôt. Parce que s'il le dit, c'est parce que, justement, il veut le contrer. Que jusque-là, jusqu'au moment où il le dit, le progrès majeur de la psychiatrie, dit-il, depuis l'introduction de ce mouvement d'investigation qu'il appelle la psychanalyse, dans les années 50, la psychanalyse a vraiment investi le champ de la psychiatrie, particulièrement de la psychiatrie de l'enfant, mais pas seulement, la psychiatrie a vu une méthode intéressante. Et Lacan dit dans ce séminaire 3 qu'on pense souvent que ce mouvement d'investigation qui s'appelle la psychanalyse, comme il dit, a apporté de majeur à la psychiatrie, a consisté, croit-on, dit-il, à restituer le sens dans la chaîne des phénomènes. Alors Lacan dit, c'est pas faux en soi. Mais ce qui est faux, dit-il, c'est de s'imaginer que le sens dont il s'agit, c'est ce qui se comprend. Comprendre, alors il utilise là le terme de malade, mais comprendre nos patients, comprendre nos analysants, disons, c'est là un pur mirage, dit-il. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Au fond, Lacan est clair. Si on prend la psychanalyse comme délivrant le sens des symptômes, au sens d'une vérité cachée, ou encore de ce qu'on a pu approcher comme une quelconque symbolique du rêve. Vous voyez, si tu rêves cela, ça veut dire ça, ou même, ça se fait beaucoup. Le chant de l'enfant était très propice à ça, justement. C'est pour ça que... vous voyez ce que la psychologie fait avec les dessins d'enfants, par exemple. On interprète les dessins d'enfants en disant, si c'est du rouge, c'est qu'il y a de l'agressivité, enfin, des choses comme ça. Ça, dit Lacan, on rabat alors la psychanalyse sur une psychologie. Ce n'est pas mon mouvement, dit Lacan. Il s'agit de situer l'approche lacanienne des symptômes à un autre niveau, dans le registre du sens, nous invite-t-il. Et donc, comme je disais, la clinique avec les enfants, et la psychanalyse d'enfants particulièrement, n'a pas été sans prêter le flanc à ce que Lacan dénonce. L'enfant, particulièrement le petit enfant, surtout lorsqu'il ne parle pas encore ou pas bien, ou qu'on a l'idée, ça s'entend, qu'il ne livre pas tout, et tout particulièrement, à nouveau, l'objet de ces interprétations imaginaires ou sauvages, qui ne sont le signe que de la projection du propre imaginaire ou de la propre imagination de celui qui les pose à l'enfant. Ça, il en va ainsi de toute interprétation qui se donne la prétention de toucher à ce qu'on appelle au vécu de l'enfant. Ainsi, le champ de l'enfant a été et reste toujours le champ électif de théorie à ce titre, je pense que c'est Jacques-Alain Miller qui dit ça, qu'on peut qualifier de délirante. Nous connaissons tous les interprétations bateau de ce qui relève de ce registre de l'imaginaire, du psy, du type que lorsqu'un enfant joue à faire entrer une voiture dans un garage, qu'il montre ainsi qu'il souhaite ou encore qu'il aurait le fantasme d'entrer ou de revenir dans le ventre maternel, par exemple. Ça, c'est encore court. Rien de la clinique psychanalytique nous invite Jacques Lacan, ne permet de cautionner ce genre d'affirmation, sinon comme fantasme de l'autre, justement. Toute clinique qui s'appuie sur l'insight ou le vécu porte cette marque et ne relève pas de la psychanalyse, dit Lacan. Lacan, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer ou penser, pour ceux qui rechignent à se rompre à son enseignement, prône, lui, alors, je pense aussi que c'est un terme de Jacques-Alain Miller, parce que Pénélope me demandait s'il était de moi. Elle a beaucoup aimé ce terme. Il prône dans le champ de l'enfant et de l'interprétation des symptômes de l'enfant une sobriété fondamentale, invitant plutôt à suivre le signifiant du sujet de l'enfant, aussi petit soit-il, à la lettre et dans sa structure. Cela veut dire dans la logique de son articulation. L'interprétation psychanalytique n'est pas une interprétation du ressenti, des impressions, des projections ou encore des sentiments, sur lequel Lacan ne se prive pas de faire un jeu de mots d'ailleurs. Elle est une clinique, dit Lacan, du signifiant du sujet. De nouveau, tout à la fin de son séminaire 4, Lacan donne toute une série, justement en se repenchant sur le cas du petit Hans, d'indications très précises quant à comment il faut lire les productions imaginaires du petit Hans. En pointant que quand on travaille avec les enfants, justement, on a affaire à toute cette matière imaginaire qu'il produit, et qui est toujours riche de résonances imaginaires. Certes, mais il s'agit de les lire, nous invite Lacan, à un autre niveau, et il va jusqu'à dire, ça résonne avec ce que je disais au début, que il s'agit de lire l'observation, là il dit de petit Hans, de lire l'observation en tentant, je trouve ça magnifique, d'entendre la langue dans laquelle s'exprime celui-ci. Et de laisser de côté, dit-il, parce qu'on est toujours obsédé, dit-il, par un certain nombre de significations que nous avons et qui empêchent de voir, au fond, dit-il, ce qui est inscrit de la façon la plus évidente dans le texte même du symptôme, qui est aussi à fleur du signifiant, dit-il, que l'est une phobie. Alors, si vous êtes sensible à ces termes inscrits, traduits dans le symptôme d'un petit garçon de 4 ans, donc, dont Freud, le père Lacan et l'éthique de la psychanalyse prend au sérieux tous les dits, enfin, peut-être on aura l'occasion d'y revenir, mais il y a tout un enseignement sur lequel je ne peux pas revenir en détail sur ce qu'il s'agit de lire. L'inconscient se loge dans ce qui est dit. Il n'est pas, il faut pas le chercher ailleurs, au fond. Et donc, la construction de l'enfant, il faut la lire au ras de ce que l'enfant dit. Sinon, on est aveugle, dit Lacan, à ce qu'on a sous les yeux. Et au fond, il ne faut pas s'obstiner, précise-t-il encore, à comprendre alors qu'on n'a qu'à traduire cela de la façon dont l'enfant lui-même le présente. Lacan ne cherche donc pas le sens de ces productions, mais ce qu'elles articulent, on pourrait dire, à la lettre. Ce qui ne veut pas dire, à nouveau, puisque le symptôme et les productions sont chiffrées, qu'il s'agit de prendre pour argent comptant ce qui est dit. Ça, quand on fait ça, ça détermine aussi une position subjective. L'époque actuelle ne manque pas, justement, avec cette conception qui n'est pas la conception du sujet de l'inconscient et du sujet de la parole, mais du droit à la parole, de prendre pour argent comptant la moindre parole de l'enfant et, par exemple, de l'envoyer passer à l'acte le moindre de ses dits qu'il peut dire. mais il s'agit de lire les articulations, les permutations, les circuits, bref, le réseau logique et signifiant qu'il dessine. Parce que ce que l'enfant essaye de faire, dit Lacan, à propos du petit Hans, c'est de faire le tour, c'est ça, toutes ces petites productions imaginaires, de faire le tour de toutes les petites solutions possibles qu'il a pour essayer de reconstruire une signification, compléter l'ébéance d'une signification qui, en tant que telle, ne signifie rien et qu'il a perdu dans le moment d'angoisse qu'il rencontre et dont son symptôme répond. C'est ce qui le conduit, je terminerai là-dessus parce que c'est des généralités, mais ça me semble important de, qu'on se les rappelle. Voilà. C'est ce qui le conduit à préciser, donc Hans a une phobie du cheval, hein, qui se décline de mille et une façons. Et au fond, Lacan dit, y compris dans le champ de la psychanalyse, on a beaucoup cherché ou on peut être conduit à chercher du côté de ce qu'est le signifié de ce cheval, de ce que représente ce cheval, si on veut dire. Quand on fait ça, on se perd. Ce n'est pas la voie, dit Lacan, par laquelle il faut procéder. Le cheval, il emporte plein de configurations analogiques. Comme il dit, on peut faire une symbolisation du cheval, de ce que le cheval représente dans la mythologie, enfin tout ce que vous voulez. Ça n'est pas comme ça qu'il faut prendre le signifiant symptomatique de la phobie, dit Lacan. Il faut le prendre comme justement le signifiant qui sert, au fond, un signifiant électif qui sert au petit Hans pour essayer de reconstruire une logique, de reconstruire une signification à la question subjective de son être qui se pose à lui et qu'il a, dans le moment angoissant qu'il rencontre, perdu. Et donc, c'est ce qui conduit Lacan à dire « ne cherchez pas l'équivalent du cheval ». C'est parfois le petit Hans lui-même, c'est la mère du petit Hans, c'est le père, c'est tout ce que vous voulez. C'est tout ça successivement à la fois. Et bien d'autres choses encore. Cela peut être tout cela, dit-il. Cela peut être d'ailleurs n'importe quoi de tout cela. Mais laisser l'enfant, en quelque sorte, faire usage de ce signifiant pour essayer de reconstruire un système signifiant cohérent, comme il dit, pour trouver un apaisement à l'angoisse existentielle qu'il rencontre. Et je dirais que c'est en quelque sorte à ça que la pratique du praticien qui s'oriente de la psychanalyse est conduite et ne doit pas, que le praticien ne doit pas entraver, dit Lacan. Et c'est évidemment, me disais-je, particulièrement ce qui est rejeté ou forclos par la, comment est-ce qu'on dit, psychoéducation ou neuroéducation actuelle qui vise à l'interdire. Voilà.
Merci Yves. Merci beaucoup. Pour ce travail, tu nous donnes envie de lire ou de relire, si vous ne l'avez pas déjà fait, de lire notamment le cas du petit Hans, donc, que vous trouverez dans les 5 psychanalyses de Freud hein, et les commentaires qu'en fait Lacan, notamment dans le séminaire 4, qui suit très précisément. Une première chose, voilà, de te remercier d'abord, parce que c'est très riche, et peut-être la façon dont tu... dit à nouveau très précisément l'orientation de la psychanalyse hein, qui considère d'abord et prend au sérieux tout sujet comme être de parole hein, et d'accueillir la parole d'un sujet voilà, dans sa richesse, sa variété, son inventivité, voire ses fictions, contes, fantasmagories, affabulations, rêves, fantasmes, etc. C'est ce qui avait été mis au travail dans la dernière journée de l'Institut de l'Enfant, rêves et fantasmes chez l'enfant, où au fond, il peut y avoir une tendance, qui n'est évidemment qu'à l'opposé de celle de la psychanalyse, de considérer que ce que raconte un enfant, et notamment le petit Hans, enfin, quand le père dit au petit Hans, enfin, c'est pas possible que je sois à la fois dans le train et chez la grand-mère, que je sois pas là, et puis après que je sois là. C'est pas la question de la vérité, bien sûr, de l'objectivité, c'est pas la question de la réalité non plus, mais je crois que Lacan dit ça dans le séminaire 14, c'est que ce que l'enfant amène dit quelque chose, il l'éprouve, ça dit quelque chose de la vérité de son être. Et qu'au fond, c'est vrai que quand on dit bah non, mais il raconte n'importe quoi, il affabule, à l'inverse, c'est que l'enfant tente de dire, et je ne sais plus comment tu as dit ça à la fin, justement, c'est que le signifiant lui sert à dire quelque chose de son être, et que ça n'est pas la question de ce que ça représente. Donc, je voulais revenir là-dessus, et notamment sur...
Il mobilise, comme il dit, il mobilise tous les ressorts de l'imaginaire et du signifiant pour traiter sa question subjective.
Voilà. Et donc, c'est vrai que ça implique aussi de... C'est pour ça que le travail que les cliniciens, les praticiens orientés par la psychanalyse font au travers des jeux, par exemple, de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant met quelque chose de son être dans les jeux et qu'il s'agit de suivre. Et donc, évidemment, c'est tout à l'inverse que tu dis des pratiques qui s'intéressent et qui considèrent que ce que l'enfant amène concerne un trouble du neurodéveloppement qui dirait quelque chose de l'imagerie de son cerveau. Et à l'inverse, c'est quand même considérer toute cette matière-là du côté de la richesse signifiante.
Reste toute la question de savoir qu'en faire, comment le lire, au fond, avec Lacan.
Oui. Qu'en faire, comment le lire,
Tu disais... Lacan suit précisément dans les pages du séminaire 14. Il faut aller
4.
Il faut aller relire ça. C'est presque touchant. Comme je disais, le sérieux avec lequel il reprend ça, allant jusqu'à dire je n'ai pas la mémoire des dates, certainement pas celle-là, mais allant jusqu'à dire le 4 octobre, dans la conversation du 4 octobre. Le petit Hans dit ça à son papa. Le lendemain, le 5 octobre, il dit ça et revient sur... Et le 15 octobre, et il parle des rails, du chemin de fer qu'il y a devant la maison. Et Lacan va jusqu'à essayer de resituer les lieux pour... tout ça pour dire la précision et la dignité, au fond, qu'il donne à toutes ces productions de l'enfant.
Oui, c'est-à-dire que la dignité, c'est aussi, quand tu dis qu'en faire, déjà, ne pas mettre un couvercle. C'est-à-dire permettre que ça se déploie. Et c'est-à-dire aussi ne pas mettre un nom identitaire, enfin, de diagnostic. Alors, c'est pas que la psychanalyse se passe tout à fait des diagnostics, mais en tout cas, c'est que l'orientation analytique ne veille pas à mettre un nom qui réduirait le sujet dans une identité. C'est-à-dire que c'est aussi permettre à l'enfant d'avoir le temps de déployer, d'amener les signifiants dont il se sert, mais également les signifiants de la langue dans laquelle il a été baigné. Tu rappelais ça à la lumière de ce que dit Lacan, du bain de langage, qui sont les signifiants de la famille, les signifiants des parents, les signifiants même d'avant sa naissance, les signifiants qu'il en marquait, dont il en a gardé la trace. Donc finalement, qu'en faire, c'est aussi permettre que ce temps et cet espace puissent exister pour les enfants qui ne soient pas réduits à des êtres de trouble ou des êtres réduits à l'imagerie de leur cerveau, par exemple.
Ni réduits au silence, ni soumis à l'application d'un protocole pour rectifier une conduite. je pense que Lacan, dans ces pages-là, dit précisément que une des tâches du psychanalyste, c'est d'abord et avant tout, enfin, je reprends ton terme, de ne pas empêcher ce processus dans lequel l'enfant convoque les quelques signifiants qu'il a à sa disposition pour les décliner, en faire usage, au fond. Ne pas empêcher et même... il dit pas favoriser, il dit ne pas empêcher, ce qui est déjà beaucoup et qui n'est pas toujours facile. Parce que ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à intervenir. Mais enfin, à ce titre, Lacan, comme toujours, se moque sans honte du père, du petit Hans, qui, et en même temps, lui voue un extraordinaire respect, parce qu'il dit que là où il se trompe, il n'empêche quand même jamais son enfant de justement dans ce processus. Et d'ailleurs, le petit Hans ne s'en laisse pas compter du haut de ses trois pommes, puisqu'il a un père d'ailleurs très conciliant par rapport à ça, qui ne le réprimande pas, qui ne le bride pas. Mais Lacan assigne au psychanalyste, dans sa rencontre avec l'enfant, cette tâche, effectivement, de ne pas l'empêcher.
Alors, c'est en plus tout ce que tu dis est fondamental, notamment avec ce à quoi nous avons affaire aujourd'hui, qu'on soit praticien en libéral ou que l'on travaille en institution, puisque je pense que ceux qui sont ici et qui travaillent dans les institutions, et même tous, on sait ce qui existe aujourd'hui, d'abord l'agression, la bataille menée contre la psychanalyse et aussi dans la façon dont les institutions sont orientées, c'est-à-dire que vaste campagne, je dis campagne presque de communication, d'opérer des diagnostics de plus en plus précoces sur des enfants, parfois même avant 4 ans, à partir de signes qu'il s'agirait de repérer pour faire des diagnostics très très précoces afin non pas tant d'accueillir le mal-être des enfants et de ceux qui les entourent et qui de la famille, mais surtout de redresser et de rééduquer ces enfants diagnostiqués précocement. Avec, on connaît l'existence des centres experts qui se généralisent, et donc finalement avec toute une grille de lecture qui, bien sûr, n'a ni le temps, ni la vocation, ni l'élan, ni le désir, et surtout pas l'orientation, d'accueillir tout ce matériel subjectif. Donc peut-être on...
Non, il est même... L'idée est même d'ailleurs, justement, là, de l'empêcher pour... faire un diagnostic précoce, dont on reste d'ailleurs ébahi dans la pratique, de voir la pauvreté des diagnostics qui en ressort. C'est assez simple. Il y en a deux. Et quand vraiment ils sont de bonne humeur, il y en a trois. Tout le monde est diagnostiqué, parfois avec un certain pourcentage, soit TSA, soit TADH.
TDAH,
voilà. Oui, c'est ça, mais c'est une idée du diagnostic précoce, justement dans le sens de empêcher tout ce dont on parle, pour justement au plus rapidement appliquer un protocole d'accompagnement, de rectification de la conduite, mais un protocole préétabli, c'est-à-dire qui fait fi complètement des ce que nous appelons des signifiants propres à l'enfant.
Alors, c'est...
Il y a TOP aussi.
Oui, vas-y.
Il y a TOP aussi. Les troubles
d'opposition.
Voilà.
Alors, donc, non seulement...
Ça fait que vous avez...
Vas-y.
Non, on pourrait parler... Ça fait que vous recevez des dossiers, par exemple, en institution d'enfants qui sont passés par les centres experts. Des dossiers, j'en ai eu un en main encore récemment, qui font 24 pages. Dans ces 24 pages, il y a 20 pages du centre expert. Dans ces 20 pages, il y a les éléments biographiques, et puis un test souvent d'intelligence qui couvre 10 pages de graphiques, de calculs et des choses comme ça. Et puis ça se conclut par au choix TSA, TDAH, TOC, TOP. Et alors là, on est extraordinairement surpris. Orientation vers un IME. Et si vous voulez vraiment savoir quelque chose de l'enfant, vous prenez les 3 pages qui restent du rapport scolaire et du rapport qu'a fait l'assistant social, souvent, qui a rencontré l'enfant et qui parle vraiment des comportements et de l'attitude de l'enfant. Et vous avez alors un tableau clinique bien plus précis que tout ce qui est fourgué dans ces... C'est vraiment frappant. Bon, je sais pas pourquoi je t'interrompais pour te dire.
Non, c'est bien que tu nous fasses part de ton expérience, puisque que ce soit en Belgique ou en France, finalement, on a affaire aux mêmes écueils.
Alors évidemment, tu parlais du diagnostic. Oui, le diagnostic, c'est pas quelque chose qui est étranger à la psychanalyse. On s'appuie, on essaye de se faire une idée diagnostique seulement. Me semble-t-il, le diagnostic ne pose pas du tout sur la même chose. C'est un diagnostic d'une position subjective qu'on porte, et c'est pas un diagnostic symptomatique. Par exemple, c'est une des choses qui me venait. Et par ailleurs, le rapport qu'a la psychanalyse avec le diagnostic, malgré toute son importance, quand je dis c'est un diagnostic d'une position subjective, c'est-à-dire de configuration générale, mais une fois que ça s'est posé, ça ne dit encore rien. C'est un peu bateau de dire ça, mais de la singularité avec laquelle ça se présente chez chacun et qui répond, comme tu le reprenais à Lacan, d'une langue qui lui est propre, qui est propre à chacun. Ce qui fait dire à Lacan, ça me vient comme ça, quand tu parles de diagnostic... Lacan reprend ça à Freud. Après, on est quelques collègues à avoir essayé de rechercher où il dit ça, où Freud dit ça. Lacan dit que c'est Freud qui le dit, mais des collègues très avertis qui ont cherché, personne n'a retrouvé. Si quelqu'un peut le retrouver, vous aurez toute la communauté belge qui sera contente. Lacan peut dire, vous connaissez la formule, mais un névro... c'est comment le rien ne ressemble moins à un névrosé obsessionnel qu'à un autre névrosé obsessionnel. Voilà. Ce qui est un paradoxe logique, puisqu'on dessine une classe et en même temps on dit que les unités de la classe ne se ressemblent pas du tout entre eux. Eh bien, c'est un paradoxe fécond et qui dit bien, je dirais, l'abord du diagnostic, enfin, l'usage du diagnostic que fait la psychanalyse.
Oui, peut-être une dernière petite chose avant de se quitter, mais pas tout à fait. Finalement, ça rejoint ce que tu disais. Tu rappelais une chose assez basique, mais qui me semble essentielle tout de même, c'est que ce que la psychanalyse enseigne, c'est que ce qu'on appelle un sujet est toujours entre deux signifiants. C'est-à-dire que le sujet s'échappe toujours. Il glisse, donc il est toujours entre deux signifiants, et que finalement... aucun signifiant ne peut attraper tout à fait, enfin, ça, c'est vraiment une visée, on ne peut pas attraper tout à fait, je parlais d'identité tout à l'heure, mais en tout cas, la vérité de son être au travers d'un seul terme. Et que finalement, le malaise aussi avec la question diagnostique d'aujourd'hui, qui n'est pas un diagnostic de position subjective, c'est que c'est l'idée de diagnostic et de signifiant, enfin de mots pourtant assez pauvres, qui dirait tout du sujet, alors que la psychanalyse enseigne que finalement le sujet glisse toujours et qu'il y a, et tu le rappelais, aussi une part de chacun et du signifiant, une part de chacun qui ne se résorbe pas dans le langage, et que ça finalement, ça laisse une grande ouverture.
Oui.
Bon.
Oui, d'ailleurs, ce que tu dis là, des diagnostics qui fixent sous un signifiant, c'est souvent des diagnostics qui ne disent rien. Des signifiants qui ne disent rien, justement. ou en tout cas qui couvre des choses bien, bien hétérogènes qu'on aurait tout intérêt à essayer de distinguer. Quant au fait de ce que tu dis là, de le sujet est toujours entre deux signifiants, c'est extrêmement important. D'où est-ce que je parle? Lacan insiste beaucoup, je pense, c'est tout le corps du séminaire, les problèmes cruciaux qui est sorti, que le sujet n'est pas antifiable, que le sujet de la psychanalyse, en tout cas, celui qui l'intéresse. Et que, par exemple, quand vous faites un lapsus, hein, je veux dire ça et je dis autre chose, le sujet n'est pas plus dans ce qu'il a voulu dire que dans ce qu'il dit, mais il surgit dans le gap et la faille qu'a introduit le fait que sa langue a fourché et qu'un signifiant est venu à la place de l'autre. C'est une façon de l'attraper. Après, Lacan insistera beaucoup que c'est de la structure même du signifiant, qu'un signifiant, j'allais dire tout seul, mais il fera tout un sort à la question du signifiant tout seul aussi, mais qu'un signifiant isolé ne dit jamais rien en soi. Il ne se définit que dans le rapport à au moins un autre.
D'où l'intérêt pour les bévues, les bêtises, les lapsus, la langue qui fourche, les échappées chez l'enfant et ailleurs. Bon, alors on va te remercier beaucoup, ne partez pas. Merci à la librairie Mola, et puis donc on t'attend le 13 juin. Également, il va y avoir une journée, une après-midi, le 20 juin, une après-midi clinique du CEREDA sur l'objet oral et les destins du premier objet, où l'invité sera Ligia Gorini, donc c'est le CEREDA. Nous, on se retrouve à la librairie Mola le 13 juin. Merci beaucoup, Yves.